Je voudrais maintenant présenter le professeur Philippe Kourilski. C'est un ancien élève de l'École polytechnique. Il est docteur en sciences et il a effectué la majeure partie de sa carrière au CNRS, où il était directeur de recherche, avant d'être nommé ici au Collège de France en 1998. Il est nommé directeur en 2000, directeur général de l'Institut Pasteur. Il est membre de l'Institut, professeur de l'Institut Pasteur et membre de l'Academia Europa. Il a exercé de nombreuses responsabilités touchant à la fois à l'administration et à la recherche sur les applications de la génétique et de l'immunologie dans le secteur public autant que dans le secteur privé. Actuellement directeur de recherche, il est l'auteur de plus, ça rend modeste, 300 publications dans des revues internationales, d'un rapport sur le principe de précaution qui a été remis au Premier ministre et de plusieurs ouvrages, je cite, « Les artisans de l'hérédité, la science du partage et du bon usage du principe de précaution ». Nous vous écoutons, merci.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais vous parler de pauvreté et commencer par enfoncer quelques portes ouvertes. La pauvreté est évidemment dans le monde un problème absolument colossal et je commencerai par dire que selon moi les perspectives ne sont pas extrêmement enthousiasmantes. D'abord parce que dans beaucoup de pays développés, la pauvreté augmente. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Ensuite, en raison de la démographie, on attend quand même, selon certains démographes en tout cas, au moins 2,5 milliards d'individus d'ici 2050. Avec des effets qui ne sont pas seulement purement démographiques, bien entendu, c'est-à-dire le nombre de bouches à nourrir et de corps à soigner, mais par exemple, on attend une croissance de la population considérable en Afrique, avec des phénomènes d'urbanisation qui devraient entraîner un accroissement massif des bidonvilles, sans oublier que la réforme de l'agriculture pourrait mettre des centaines de millions d'Africains au chômage. Ces phénomènes sont accrus, au moins temporairement, par une crise financière dont nous ne savons pas quand elle se terminera. Et en plus, nous avons à prendre en compte, quelque part, au niveau en tout cas des aides publiques, le problème du réchauffement climatique. Les poches des États ne sont pas infiniment profondes et on voit bien d'ores et déjà que les problèmes de lutte contre le réchauffement climatique viennent en opposition, en contradiction, en compétition avec la lutte contre la pauvreté. Le monde, évidemment, qui touche à la pauvreté est immense et complexe. Il va d'une grande variété d'acteurs, depuis les Nations Unies, depuis les opérateurs publics nationaux, des acteurs économiques privés, investisseurs, entreprises, on oublie un peu trop d'ailleurs le rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté, les ONG, les grands mécènes, etc., les salariés, les bénévoles. Un monde extrêmement complexe et je voudrais vous donner quelques ordres de grandeur. À la louche, parce qu'il n'existe, à vrai dire, aucune définition homogène de la pauvreté, donc on a forcément des fourchettes, des évaluations. Dans le monde, les estimations habituelles oscillent entre 1,5 et 2,5 milliards d'individus. En France, la fourchette est entre 4,5 et 8,8 millions de personnes. Les ONG sont très mobilisées pour lutter contre la pauvreté, ce ne sont pas les seules. Mais les ONG, il n'y a pas de chiffres, enfin, je n'ai pas pu trouver de chiffres exacts. À la louche, encore une fois, je pense que ça doit être de l'ordre de la dizaine de millions ou plus. D'ailleurs, en France, pour prendre cette référence, nous avons 1,3 million d'associations 1901, dont 100 à 200 000 sont certainement impliquées dans les actions sociales. Les acteurs de terrain, c'est-à-dire ceux qui mouillent leur chemise pour faire avancer les choses, se comptent par centaines de millions, des centaines de millions en France. D'ailleurs, quand on prend, il y a plusieurs sources, je cite là le rapport du député Vercamer en 2010, et on peut interroger une association qui s'appelle France Bénévolat, d'où il ressort que probablement, à temps partiel bien entendu, il pourrait y avoir jusqu'à 15 à 20 millions de personnes qui font du bénévolat en France. Quant au budget, ils sont ce qu'ils sont, des centaines de milliards d'euros, budgets nationaux, l'aide publique au développement qui devait être de 0,7% et dont on sait qu'elle est aujourd'hui en France, en tout cas plutôt au niveau de 0,3, non sans que les chiffres aient été soigneusement habillés par le passé, la Fondation Gates et un certain nombre d'autres choses. Donc un problème d'une ampleur absolument colossale, et je voudrais maintenant faire la comparaison, et je sais que comparaison n'est pas raison, mais c'est ce qui a guidé mon raisonnement, avec l'univers scientifique. Il y a finalement pas mal de similitudes, parce que tous ces opérateurs de terrain, ces acteurs s'adaptent, ils font en fait des expériences, ils innovent, il y a des problèmes de transfert, il y a plein de choses, tous mots qui sont, ou notions qui sont absolument courantes en science. Et quand on compare les deux univers, on trouve une différence tout à fait capitale, évidente une fois qu'on l'a dite, et pas tellement évidente tant qu'on ne l'a pas dite, c'est que dans l'univers des acteurs de terrain et des opérateurs de terrain, la capitalisation des savoirs est extraordinairement déficiente pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de publication ou très peu de publications validées des résultats. Ce que je vais dire, c'est que ce que je vais dire peut choquer, cette phrase est un peu excessive, mais enfin, si l'on prend le domaine des ONG, beaucoup d'entre elles passent évidemment leur temps, ce qui est parfaitement légitime, à demander de l'argent, mais à peu près aucune ne publie ses résultats au sens où nous l'entendons en science, c'est-à-dire que les résultats sont mis à la disposition de l'ensemble des acteurs de façon à ce qu'on puisse capitaliser les savoirs et les savoir-faire. Selon moi, ce manque de structuration des savoirs a des conséquences très très graves. Bien sûr, c'est cette notion qui a présidé au Collège de France à la création de la chaire Savoir contre pauvreté, dont Dominique a été titulaire. Mais l'absence générale, quasi générale, de publication des résultats de l'action de terrain, et non pas des projets, parce que publier des projets, c'est facile, mais publier des résultats, c'est quand même autre chose, a des conséquences que je résume ici. Perte d'historicité. Dans beaucoup d'endroits, on ne sait plus très bien ce qui s'est passé en termes d'action. Il n'y a pas de traces. Déficit majeur de capitalisation des savoirs et des savoir-faire, avec une perte d'efficacité qui est liée au fait que, faute de diffusion des connaissances, on réplique les erreurs et on ne réplique pas ce qui marche. Une difficulté considérable d'évaluation des résultats et de l'efficacité des actions qui est reconnue par tous les bailleurs de fonds. Et également, quelque chose de très important, c'est l'absence de reconnaissance ou le manque de reconnaissance des acteurs. En science, il y a des mécanismes de reconnaissance. Chez les acteurs de terrain, il y en a peu. Et ce n'est pas un prix Nobel donné à Médecins sans frontières une fois qui résout le problème. Il y a un véritable sujet de reconnaissance d'acteurs qui font des choses absolument fantastiques sur le terrain et qui ne bénéficient pas de la reconnaissance. Voilà, tout cela n'est pas lié uniquement au manque de publication, mais je ne peux m'empêcher d'utiliser un argument que j'utilise dans beaucoup de mes discussions avec des ONG notamment, ce que serait le CNRS ou le National Institute of Health s'il n'y avait pas de publication scientifique. Ce serait ingérable, et bien je prétends que, dans une certaine mesure, l'action de terrain est déficiente en termes d'efficacité de tous ces paramètres en raison donc de ce phénomène. Donc ma question est la suivante. Peut-on imaginer une science de l'action de terrain? Évidemment, posée comme ça, ça paraît un petit peu difficile, mais je voudrais vous dire que cela résulte d'une analyse ancienne. Je cite ici une préconisation qui date d'un rapport que j'ai fait pour le gouvernement avec l'aide de Dominique, d'ailleurs, encore une fois, qui a été publié en 2006, un rapport qui, bien entendu, a été immédiatement enterré par l'excellent ministre des Affaires étrangères de l'époque, mais qui contenait la préconisation suivante, que vous pouvez peut-être lire, qui disait qu'il faudrait institutionnaliser l'existence d'un domaine scientifique latent, celui de l'intervention de terrain, en l'espèce il s'agissait de la santé, et de stimuler par un effort international la structuration de la communauté scientifique correspondante, en commençant par la création d'une revue internationale de haut niveau. Comme ce rapport a été enterré, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas essayer de faire cela. Et donc, je me suis attaqué à cette question en créant, avec et grâce à l'Institut Veolia Environnement, une revue internationale qui s'appelle Facts Reports. Donc c'est une revue internationale qui publie des articles qui sont rédigés par des acteurs de terrain. La revue est évidemment open source, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, elle est accessible sur Internet, elle est gratuite pour les auteurs et pour les autres, les lecteurs, c'est donc du mécénat. Mais son originalité, c'est que les acteurs de terrain qui acceptent de publier dans cette revue, ils rédigent leurs articles, et ces articles sont souvent revus par les pairs. Les pairs étant eux-mêmes des acteurs de terrain, c'est-à-dire des gens qui ont mouillé leur chemise, là encore, dans un secteur qui leur permet de juger si les actions qui ont été menées sont rapportées, disons, de façon raisonnable et valent le coup d'être rapportées. Ça a été un effort considérable, parce qu'après 7 ans d'efforts, il y a maintenant 200 articles en ligne, ce qui a demandé, croyez-moi, beaucoup de travail de conviction. Beaucoup de travail de conviction parce que, je vous en donnerai quelques raisons après, la démarche n'est absolument pas spontanée et les acteurs en question ont toutes les bonnes raisons du monde de ne pas s'y livrer. 200 articles sont en ligne donc, il y a des numéros spéciaux intéressants sur la pauvreté, il y en a un qui va sortir sur Haïti, un autre sur les innovations démocratiques locales qui va paraître très bientôt. Ces deux numéros ont été pilotés par Henri Rouillé-Dorfeuille. Haïti, par exemple, est une sorte de désastre incroyable en termes de réparation du séisme avec des interventions extraordinairement désordonnées d'ONG et un État extraordinairement faible. Les innovations démocratiques locales dans le monde entier, il y en a beaucoup en termes de mécanismes participatifs. Et ce numéro a été fait sous le pilotage d'une association qui s'appelle Civicus et que certains d'entre vous connaissent probablement. Je considère l'expérience comme réussie. Je vous montre ici quelques numéros spéciaux avec un autre qui est là, c'est sur l'empreinte carbone avec Livelihoods. Et là, cette photo, prise d'ailleurs par Henri Rouillé-Dorfeuille, d'une fillette jouant sur les décombres à Haïti. Les difficultés rencontrées, et pourquoi est-ce que c'est si difficile? D'abord, la culture de l'urgence. Les acteurs de terrain se visent dans l'urgence, et c'est compréhensible. Plus subtil est le fait que la culture de la générosité qui anime ces sphères sociales, et qui est immensément respectable, bien entendu, semble parfois conduire à se dispenser toute évaluation, puisque ce que je fais est généreux, c'est bien, donc passer, il n'y a rien à voir. Donc il y a un problème, une difficulté de ce côté-là. La difficulté d'écrire est absolument réelle. Après tout, nous mettons plusieurs années à instruire nos étudiants et à leur apprendre à rédiger des articles. La peur d'être évalué, la crainte pour les financements, qui est une fausse crainte, parce que les scientifiques aussi sont en compétition pour les financements, et pourtant ils publient, s'entendent entre eux, ils y arrivent. Et un autre problème également parfois difficile, ce sont les vertus immenses, et également les limites du bénévolat, qui fait que les personnels qui travaillent dans ces opérations ont certaines caractéristiques. Mais le résultat, c'est qu'après explication mise en pratique, il y a une très très forte adhésion. Et donc, je considère que la preuve du concept est faite, que cette idée qui paraissait extrêmement difficile au départ et qu'un certain nombre de mes amis dans MSF notamment et d'autres me décrivaient comme totalement irréaliste, ça n'est pas irréaliste, c'est faisable. Et après discussion, tout le monde est en fait d'accord qu'il faut aller dans ce sens. Pour aller dans ce sens, il faut passer une autre étape, à une autre vitesse. Et donc, maintenant que cette preuve de concept est faite, je pense qu'il faut, pour aller plus loin, installer une culture du partage du savoir, améliorer les évaluations, etc., il faut faire un certain nombre de choses, toucher plus d'opérateurs, plus d'acteurs, élargir la base. Et c'est ce que nous faisons maintenant avec un autre dispositif qui s'appelle Résolis et qui cherche à ratisser beaucoup plus large en termes d'informations qualifiées de façon à faire émerger l'ensemble du dispositif. Alors, je ne vais pas vous parler de ces développements qui sont en quelque sorte un peu techniques. Je voudrais revenir à la question générale et un peu plus générale de la question des sciences de l'action au cœur de la vie démocratique. Là, mon discours sera le suivant. En fait, Si nous nous interrogeons sur l'emploi de la méthode scientifique dans différents domaines de l'action, eh bien, je pense qu'en toute honnêteté, nous constaterons que dans bien des cas, elle n'est pas vraiment appliquée. Ça n'est pas pareil la méthode scientifique de toutes les vertus, mais enfin, elle a quand même fait les preuves d'une certaine efficacité. On peut au moins se poser la question. Et il y a deux manières fondamentales de l'appliquer. La première, c'est ce que j'ai dit, c'est le B.A.B.A., à mon avis, c'est la capitalisation des savoirs liés à l'action. Et donc, je vous ai donné l'exemple de FactReport, je vous ai donné l'exemple de Resolis qui se développe, et je dois vous dire que pour l'instant, ces exemples sont presque uniques au monde. Et c'est donc un travail considérable de mettre en place ce principe et cette culture de la diffusion des savoirs. Il y a également un principe d'expérimentation, et là, cela rejoint le travail remarquable fait par Esther Duflo, par exemple, parce qu'elle n'est pas la seule à le faire, et le Poverty Lab. Esther Duflo a elle aussi occupé la chaire Savoir contre pauvreté, elle l'a inaugurée en fait, et donc ce que fait Esther, c'est de l'expérimentation contrôlée, de véritables essais cliniques, entre guillemets, en matière sociale, avec des expériences qui sont randomisées, comme on dit en mauvais français, évaluées de façon extrêmement scientifique, de façon à avoir des résultats totalement fiables sur la vertu, par exemple, d'installer ou non des cheminées dans des villages indiens pauvres, etc. Donc, il y a réellement une véritable question d'utiliser la méthode scientifique, de la diffuser dans des domaines qui peuvent en bénéficier. Je fais un petit détour pour vous dire que ça n'est pas uniquement une affaire de pays en développement. Par exemple, on a pas mal parlé de principe de précaution ce matin. Pour moi, le principe de précaution sur lequel j'ai pas mal travaillé, ça suffit. Le principe de précaution, il vaudrait mieux une science de la précaution, il vaudrait mieux une science du risque mieux développée, il vaudrait mieux une approche rationnelle des problèmes que l'affichage d'un principe théorique qu'on a inscrit dans la Constitution française, à mon avis, sans grand bénéfice visible. On peut également se poser la question d'une meilleure science de l'action publique. Et j'en donne un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Je ne pense pas que nous disposions d'une science de la réglementation, y compris en France. Je veux dire par là que lorsque les réglementations sont émises, elles le sont sur des bases généralement rationnelles, même s'il y a une dose de politique dedans. Mais enfin, le suivi des résultats laisse fortement à désirer. Nous avons des mille feuilles de réglementation dont certaines sont totalement obsolètes et les systèmes ne sont pas faits pour qu'on évalue réellement l'impact de beaucoup de réglementations et qu'ensuite on corrige le tir lorsqu'il faut le corriger. Et donc, je pense qu'il y a un véritable problème général de science de l'action, en ce sens qu'il faudrait au moins suivre les résultats des actions, les objectiver, les analyser, les partager, et être capable de les suivre avec des actions complémentaires et correctives. Ce qui me permet de dire au passage qu'à mon avis, la véritable vertu du principe de précaution, s'il y en a une, ce serait d'inciter à la flexibilité des systèmes de façon à pouvoir introduire de la réversibilité dans les décisions. Et bien entendu, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, tout au moins. Alors, je reviens maintenant par ce biais au problème des régulations pour revenir au problème de la santé et revenir au problème des pays en développement. Je voudrais évoquer un paradoxe qui est bien connu des biologistes et des médecins, à savoir que, alors que la science, la biologie est extraordinairement florissante aujourd'hui, nous avons une loi de Moore, vous savez, la loi de Moore pour l'informatique, c'est une loi de Moore à l'envers. C'est-à-dire que tous les 7 ans, le nombre de nouveaux médicaments diminue d'un facteur 2. La science est florissante, mais ça ne marche pas. Et en plus, il y a une augmentation des coûts de R&D qui est sûrement d'un facteur 2 ou 3 en 20 ans. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons à ça, commence à être un peu compris. Mais il y a un sérieux problème qui se pose derrière, deux problèmes sérieux, pardon. Le premier, c'est celle de réglementation non élaguée et du poids croissant des réglementations dans la R&D du développement des médicaments. Et le deuxièmement, c'est l'usage abusif du principe de précaution. Les réglementations non élaguées et un coût excessif du développement, c'est quand même tout à fait pas tout à fait négligeable. Quand on sait que les nouveaux traitements anticancéreux coûtent environ, peuvent coûter jusqu'à 100 000 euros par personne et par an, on comprend que notre brave sécurité sociale puisse commencer à tirer la langue. Bien entendu, si je reviens maintenant aux pays en développement, des coûts de développement pareils, s'ils sont appliqués pour les maladies négligées, les maladies qui sont propres aux pays pauvres et pour lesquels il n'y a pas de solution thérapeutique développée en Occident, évidemment, si ces critères sont appliqués, c'est absolument dévastateur. Sachez que le coût de développement d'un médicament aujourd'hui se situe d'un nouveau médicament aujourd'hui, et curieusement, il y a finalement assez peu de données qualifiées là-dessus. Mais enfin, en gros, tout le monde est d'accord pour dire que c'est entre 1 et 3 milliards d'euros par nouvelle molécule. Ce n'était pas le cas pour les vaccins, mais maintenant c'est le cas pour les vaccins. Et je pense que ça pose un véritable problème de développement qui commence à trouver des solutions avec de différentes manières. On pourra en discuter si vous voulez. Mais je voudrais déplacer aussi le problème sur le cas du principe de précaution et sur l'éthique de la précaution exportée, à mon avis, de façon totalement illégitime dans l'ensemble du monde. Ce qui reflète non seulement une exportation d'éthique, mais bien entendu l'exportation d'autres facteurs de pouvoir ou d'économie. Je rappelle très brièvement l'histoire du premier vaccin contre le rotavirus, histoire bien connue maintenant. Le rotavirus est une maladie provoque des diarrhées dans les pays riches et aux États-Unis provoque des désagréments, des frais hospitaliers, assez peu, il y en a toujours trop, mais assez peu de morts, de l'ordre d'une centaine de morts d'enfants par an. Un premier vaccin a été élaboré et mis sur le marché en 1998, et en 1999, il a été retiré du marché parce qu'il y avait des conséquences indésirables, comme on dit, donc des effets adverses qui semblaient excessifs. Ironie du sort, c'était faux, c'est-à-dire que c'était une petite déviation statistique, ça s'est corrigé les années d'après. L'entreprise qui vendait ce vaccin l'a retiré du marché, très bien, et ça, c'est pas critiquable. Aux États-Unis, en plus, les questions de judiciarisation sont très sérieuses, donc... Le véritable scandale pour moi, c'est que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas recommandé de développer ce vaccin pour les pays en développement où le dit rotavirus tue, avec ses complications, 700 000 enfants par an. Donc l'argument éthique, prétendument éthique, selon lequel ce qui n'est pas bon pour les petits Américains n'est pas bon pour les petits Africains, pose quand même question en matière d'analyse de rapport risque-bénéfice. Et donc, j'en arrive à ma conclusion. Je pense qu'il faut faire intervenir l'éthique dans ces problèmes. Évidemment, elle s'impose d'elle-même, mais il se trouve que je suis un défenseur ardent d'une forme d'altruisme rationnel que j'appelle l'altruité. Je pense que cette rationalité, en tout cas, et cet altruisme rationnel s'impose dans beaucoup de situations, mais dans les situations dont je discute en ce moment. J'entends bien que ce n'est pas la raison qui va régler les problèmes du monde. J'entends bien que les problèmes de pouvoir, d'impulsion, sont tout aussi présents. Mais enfin, dans les domaines où l'intention est positive, comme celle de lutter contre la pauvreté, je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas invoquer l'altruisme rationnel et la rationalité pour faire avancer les choses. Et finalement, quand on y réfléchit, un défaut d'efficacité dans un système de lutte contre la pauvreté, si c'est de cela que l'on veut parler, est une faute d'éthique, pour d'abord vis-à-vis des destinataires, des pauvres, si j'ose dire. C'est également une faute éthique vis-à-vis des donateurs, si leur argent n'est pas dépensé comme il faut pour, et de façon optimale pour régler au mieux les problèmes. Je pense que le partage de la connaissance est également une question profondément éthique et que les détenteurs de savoir doivent le partager. Et donc, il y a un problème qu'on peut formuler de cette façon-là. Et enfin, c'est le, je reprends l'exemple du rotavirus, dont on peut, par le calcul, j'en profite pour vous dire qu'on a redéveloppé ensuite un autre vaccin spécialement pour les pays en développement, mais ça a pris 3-4 années de plus probablement. Et donc vous pouvez calculer que cette décision probablement éthique a été peut-être responsable d'un 2 millions de morts. Donc ça pose quand même problème. Et je pense donc que la question de la contextualité de l'éthique est à reposer dans ces cas-là. Donc j'en terminerai par cette phrase sans doute naïve et un peu optimiste, mais que la rationalité, la science et l'altruité sont des compléments nécessaires et indispensables de l'empathie, de la générosité et de l'altruisme, au moins dans ces questions de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie.